Écho d'économie.
Le phénomène de la sous-traitance dans le secteur du travail en RDC pose problème. L'intersyndicale du secteur de commerce réclame une surveillance accrue sur ces maisons de placement qui s'enrichissent sur le dos des travailleurs. L'actualité, c'est aussi le dépôt de reddition de comptes à la Cour de compte ici à Kinshasa. Les ministres en charge des finances dans les provinces de la RDC expliquent la façon dont le budget 2014 a été géré. Et nous ferons un tour à Lubumbashi où des femmes de la périphérie de cette ville apprennent à élever des poussins. Cette formation de l'ONG Maman Espoir du Congo vise l'autonomisation de ces femmes. Bonsoir et bienvenue à tous. Parlons de ces maisons privées de placement dont le travail est décrié par l'intersyndicale du secteur de commerce, notamment en rapport avec l'exploitation des travailleurs par ces dernières placées dans différentes sociétés de la capitale. Dans un mémorandum adressé récemment au Premier ministre, l'intersyndicale implore l'intervention d'Augustin Matata Ponyo pour que sa lettre adressée au vice-premier ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale soit d'application. Et pour en parler, je reçois dans ce studio Innocent Olinga. Bonsoir Innocent.
Bonsoir Mireille. Disons d'abord que dans cette lettre, Augustin Matata Ponyo enjoint Willy Makiachi d'appliquer une surveillance accrue sur ces maisons de placement qui, écrit le Premier ministre, s'enrichissent sur les dos des travailleurs. C'est ce que l'intersyndicale du secteur des commerces les lui rappelle. Et en fait, pour l'intersyndicale, la main d'œuvre doit être gérée par l'employeur utilisateur ou l'entreprise utilisatrice et non par les agences de recrutement ou de placement.
Et clairement, qu'est-ce que cela veut dire, Innocent? Comment les choses doivent-elles se passer?
Pour bien comprendre, Mireille, il faut savoir d'abord que les codes du travail de 2002 autorisent le fonctionnement de ces maisons de placement. Alors, l'arrêté ministériel fixant les conditions d'ouverture, d'agrément et de fonctionnement de ces maisons de placement définit et circonscrit les rôles qu'elles doivent jouer. C'est notamment inscrire les demandeurs d'emploi, prospecter les offres d'emploi auprès des entreprises, créer des bases de données des demandeurs d'emploi et des entreprises, sélectionner les demandeurs d'emploi, placer les demandeurs d'emploi dans les entreprises utilisatrices. Alors, une fois ces demandeurs d'emploi placés dans les entreprises utilisatrices, le rôle des maisons de placement est terminé.
Mais est-ce que cette procédure est respectée?
Malheureusement, non, Mireille. C'est ce qui fait même l'inquiétude accrue de l'intersyndicale dans son mémo. Ces regroupements des syndicats ne s'expliquent pas. Par exemple, qu'une grande société de télécommunications utilise des travailleurs pour des tâches relatives à son objet social, son activité principale, et que la gestion administrative de ces travailleurs soit confiée à une société de sous-traitance qui n'a pas comme activité les télécommunications. Et là, il y a non seulement aménagement des salaires, absence de certain nombre d'allocations, mais aussi un certain nombre d'abus constatés dans les chefs de ces services de placement, entre autres l'évasion fiscale et fraude des cotisations à verser à l'INSS, INPP ou à l'ONEM. Et cette gestion est en violation de la loi du travail.
En parlant du travail, comment réagit le vice-premier ministre en charge de l'emploi, travail et prévoyance sociale face à cette situation?
Oui, nous l'avons interviewé. Il promet de résoudre ces problèmes, mais le mal est profond, une sorte de mafia qui implique plusieurs autorités du pays, comme les dénonce l'intersyndicale. Il y a tellement complicité qui, malheureusement, est en défaveur énorme des travailleurs. Les gens s'enrichissent ainsi sur les dos des autres, Mireille.
Il reste donc à espérer que le Premier ministre reste regardant, comme il a exigé une surveillance accrue de ces maisons de placement.
Bon, nous l'espérons, Mireille.
Merci, Innocent.
Merci, Mireille.
À Kinshasa, les membres de la Banque mondiale et ceux du gouvernement congolais œuvrant dans le secteur agricole ont évalué la mise en œuvre du projet d'appui à la réhabilitation et à la relance du secteur agricole par SA en sigle. La province de l'Équateur, principale bénéficiaire, se dit satisfaite, alors que Kinshasa plaide pour une prolongation de ce projet qui doit en principe prendre fin en décembre 2015. Nadine Foula.
Ce projet, dont le budget est de 120 millions de dollars américains, a été initié depuis 2010 et à ce jour, il est exécuté à 75%. L'objectif de ce projet était d'améliorer la capacité de production des ménages dans la partie nord de la province de l'Équateur et le pool Malebo à Kinshasa. Pour le ministre provincial en charge de l'agriculture dans la province de l'Équateur, la population de cette partie du pays se dit satisfaite. David Diaz-Yambo, ministre de l'Équateur.
La population est totalement satisfaite.
sur le plan de la production végétale. Il y a des semences améliorées qu'on a remises. Sur le plan infrastructure, le PASA a y construire des marchés, des entrepôts.
Pendant ces temps, Kinshasa, qui n'a bénéficié que de 10% de ce projet, souhaite une prolongation. Magloire Kabemba, ministre provincial de Kinshasa, en charge de l'agriculture.
À Kinshasa, le projet s'est buté à beaucoup de difficultés. On a constaté des cas de spoliation. Nous sommes en train de mener un plaidoyer en faveur de la prolongation du projet au-delà de 2015.
À ses doléances, le coordonnateur national du PARSA souligne que tout dépend du gouvernement de la RDC et la Banque mondiale. Alfred Kibanguila.
Nous ne sommes les exécutants. Je crois que le message a été entendu, mais il faut laisser ça partir au gouvernement et à la Banque mondiale de continuer le dialogue pour voir quel est le sort va-t-il être réservé au PARSA après décembre 2015.
La balle est donc lancée dans le camp de ces deux décideurs.
L'heure est au dépôt de reddition de comptes à la Cour des comptes ici à Kinshasa. Ce rapport qui explique la façon dont le budget a été géré dans les provinces. C'est dans ce cadre que le ministre en charge des finances dans la province du Nord Kivu est allé déposer le rapport de la reddition de comptes exercice 2014. Pierre Kabanda, ministre en charge des finances dans la province du Nord Kivu, explique au micro de Nadine Fulansimba.
C'est l'exercice que nous faisons chaque année parce que chaque gestionnaire doit rendre compte de sa gestion. Et la province du Nord Kivu, comme toutes les autres provinces et même le gouvernement central, nous déposons chaque année la reddition de comptes au niveau de la Cour des comptes.
Et après avoir déposé, quelle est la suite de la procédure?
La suite, c'est qu'au fait, après, la Cour des comptes va travailler dessus et va faire des observations si c'est bien fait ou si c'est mal fait. Et la Cour des comptes fait rapport à l'Assemblée provinciale. C'est à l'Assemblée provinciale d'analyser, de savoir si nous avons bien travaillé ou non pour être félicité ou pour être reproché.
Nadine Fula Simba nous explique ce concept de reddition des comptes.
Pour bien comprendre la reddition des comptes, il faut partir de l'élaboration du budget de l'État. C'est le gouvernement qui élabore le budget de l'État et dépose les prévisions budgétaires au niveau du Parlement. Ce dernier vote la loi des finances pour donner le moyen de la politique du gouvernement. Une fois le budget exécuté, le gouvernement est obligé de rendre compte au Parlement de la façon dont il a exécuté les budgets. Ce processus s'appelle reddition de comptes. En bref, la reddition de comptes est l'opération par laquelle le gouvernement rend compte au Parlement de la manière dont il a exécuté le budget et il obtient une décharge de sa gestion. Concrètement, comment cela se passe? En fait, le rapport sur l'exécution du budget est rédigé par une direction du ministère des Finances appelée direction de la reddition des comptes. Ce rapport est transmis à la Cour des comptes et cette dernière vérifie si le budget a été exécuté en respectant la loi relative aux finances publiques, les règlements généraux sur la comptabilité publique ainsi que les instructions que le ministre du budget donne en ce qui concerne l'exécution du budget. La Cour des comptes rédige un cahier d'observation pour indiquer comment le budget a été exécuté au cours de l'année. En fait, la Cour des comptes est un organe technique à la disposition du gouvernement pour aider le parlementaire à traiter la reddition de comptes en bon escient. Ensuite, cette reddition est discutée au sein du Parlement. Une fois l'exécution du budget jugée conforme, les parlements donnent quitus au gouvernement, c'est-à-dire ils lui donnent une décharge dès sa gestion. Tout n'est pas toujours parfait. Il arrive parfois qu'il y ait des rubriques du budget qui n'ont pas respecté les normes dès le départ. Il peut y avoir aussi des manquements dans tel ou l'autre service. Dans ces cas, il y aura un nouveau contrôle que devrait faire le Parlement et il faudra alors établir des responsabilités pour sanctionner les fautifs. La reddition des comptes est une obligation légale car selon la loi relative aux finances publiques, avant de discuter du budget de l'année, il faut au préalable avoir voté la loi de reddition des comptes pour l'exercice antérieur.
Écho d'économie. Nous sommes à Lubumbashi. L'ONG Maman Espoir du Congo a reçu un crédit de plus de 600 sacs de farine de maïs. Ils seront remis aux femmes vulnérables, membres de cette ONG qui habite la périphérie de la ville de Lubumbashi. En outre, plusieurs femmes de cette ONG sont en formation où elles apprennent comment élever les poussins dans le cadre de leur autonomisation. Jean Moussangapiri l'a dit au micro de Nelly Kabena.
Malgré nous les poussons à faire des activités, il faut toujours les accompagner. Nous avons compris que c'est moi ici, c'est le mois de la femme. Qu'est-ce qu'elle peut faire, vivre leur terme? Nous sommes dit, il faut quand même qu'on puisse chercher comment les encadrer dans ces domaines là-bas pour qu'elles ne cherchent pas quoi manger. Deuxième chose, nous les poussons aussi dans des formations. Elles ont déjà commencé une formation comment élever les poussins. Et nous allons faire des plaidoiries par les gens de bonne volonté. On puisse leur donner des poussins, même avec les aliments de premier âge. Et par après, et vendre, avoir quelque chose. Notre grande mission, qu'elles ne croisent pas les bras, qu'elles ne soient pas toujours des mendiantes, ça aide. Non, nous voulons quand même les occuper à une formation et pourquoi pas une petite activité pour avoir un savon en entendant ce qu'elles ont fait. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Nous les avons amenées dans les domaines agricoles. Mais on ne récolte pas quand on sème. Ça demande du temps. 3 mois, 4 mois, 5 mois. Mais pendant ces temps où ils attendent les récoltes, nous les poussons quand même à une petite activité justement pour avoir un savon et qu'elles ne croisent pas les bras. Nous avons trouvé au moins plus de 600 femmes à celles qu'on a données, 100 sacs, 30 sacs, 40 sacs.
L'écho d'économie, c'est fini pour ce soir. Une édition supervisée par Léonard Moulamba, mise en onde par Dieudonné Nyangassa et suivie par vous. Merci.